Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
Dans les jours qui viennent, jamais vous n'allez autant entendre parler du bazar de la charité. D'abord de la saga historique et à gros budget que TF1 proposera en 8 épisodes à partir de lundi prochain. Mais dès dimanche, sur la chaîne Histoire, vous pourrez découvrir la véritable histoire de ce bazar de la charité qui a secoué la société parisienne d'abord et française grâce à un documentaire réalisé par une Alsacienne, Domino Elodie Lénis. Bonjour.
Bonjour Thierry.
Colmarienne.
Absolument.
Et vous avez été chargé par la chaîne Histoire de raconter la vraie histoire, la vraie tragédie de ce bazar de la charité qui en quelques dizaines de minutes, le 4 mai 1897, fait périr dans des conditions épouvantables plus d'une centaine de personnes. Vous saviez beaucoup de choses de ce bazar de la charité avant de vous plonger dans les archives ?
Non. En toute honnêteté, en fait, je ne connaissais pas ce fait divers. C'est une commande de la chaîne Histoire, qui appartient donc au groupe TF1, qui souhaitait avoir un documentaire historique sur la véritable histoire de l'incendie du bazar de la charité, puisque dans la série, comme vous venez de l'indiquer, donc produite par TF1, par Netflix, avec un gros budget, on parle effectivement de l'incendie, mais on suit après le destin de trois femmes. Et le destin de ces trois femmes est totalement romancé. Donc, ils souhaitaient absolument avoir un documentaire historique sur la véritable histoire de l'incendie du bazar de la Charité. Et j'ai eu effectivement la chance d'être en contact avec eux depuis très longtemps, parce que je travaille avec eux régulièrement. Oui. Et la chance, du coup, de pouvoir m'intéresser à ce fait divers.
Nous revenons sur cette tragédie du bazar de la charité, bientôt à découvrir à la télévision, avec Dominique Elodie Lénis, notre invitée. À tout de suite.
France Bleu Alsace.
focus sur un drame survenu le 4 mai 1897 à Paris, mais qui a bouleversé l'opinion publique dans toute la France.
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
L'incendie du bazar de la Charité. Alors, c'est une Alsacienne, une colmarienne, Dominique Elloudi-Nénis, notre invitée. Elle est réalisatrice et proposera de voir dimanche soir sur la chaîne Histoire le documentaire tiré de ce drame qui va bouleverser l'opinion publique et qui a également inspiré une série événements romanesques que vous pourrez voir en 8 épisodes dès lundi, ce lundi prochain, sur TF1.
Bienvenue au bazar de la Charité.
Il y a un problème ?
Qu'est-ce que c'est ?
Tout est brûlé en une demi-heure.
Une centaine de victimes. Que des femmes de la haute société, leur bonne. Aucun homme.
Qu'est-ce que c'était que ce bazar de la charité à Paris ?
Alors chaque année, depuis 1885, c'est un monsieur de la haute société qui avait eu l'idée d'organiser une vente de charité. Donc on y vendait des objets, de lingerie, des colis fichés, voilà, au profit bien sûr des plus démunis. Donc c'est l'aristocratie qui se charge de ces ventes pour les bonnes œuvres. Grâce à ces ventes que les dames de la haute bourgeoisie et de la très haute aristocratie mettaient en place, eh bien on pouvait payer l'école pour certains enfants, les envoyer dans des dispensaires pour se faire soigner. C'était une vente qui était très très importante effectivement pour les plus démunis, mais aussi pour la
bourgeoisie,
l'époque, la bourgeoisie société, puisque c'était un petit peu on dirait aujourd'hui the place to be, c'était l'endroit où l'aristocratie devait être présente et se montrer. On venait montrer, ses nouveaux bijoux, ses nouvelles robes.
Oui, c'était un peu la fashion week du moment, quoi.
On venait se montrer.
Mais alors, c'était aussi important pour les gens de la bourgeoisie, l'aristocratie, de venir se montrer, les dames surtout, qui trouvaient là d'ailleurs une occasion immanquable de sortir de leur palais souvent doré, mais enfin pas très drôle. Et aussi, pardonnez-moi, mais pour le quidam, de venir approcher ces célébrités qui étaient invisibles le reste du temps, quoi, en fait.
Oui, parce que ces femmes, en fait, à l'époque, elles ne vivaient que, soit dans leur château ou dans leur belle demeure parisienne, mais elles n'avaient pas de vie de femme. Et faire la charité, en fait, c'était certainement une façon pour elles de se sortir du carcan de leur père, de leur mari. Et c'était un moment pour elles. Au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de monde qui vient non seulement visiter, mais aussi qui veut participer à ces ventes de charité. Donc, par manque de place, cette année-là, l'organisateur trouve un terrain vague, abandonné, rue Jean Goujon, et monte tout en bois un décor de théâtre, un vrai décor de théâtre, qu'il avait racheté à l'époque pour la somme, je crois, de 200 francs. Donc, il rachète un vrai décor de théâtre qui représente une rue du Moyen-Âge de Paris avec des petites échoppes. Et ces petites échoppes vont servir en fait de boutique.
Il se trouve que cette rue du Moyen-Âge est installée dans une baraque, parce que c'est malheureusement une baraque, même si elle fait près de 100 mètres de long sur 13 mètres de large.
Effectivement, les décorateurs, les personnes qui ont mis en place le décor, se sont un petit peu inquiétés quand même de la précarité, on va dire, de ces morceaux de bois, un peu de briques et de broc, et en ont alerté l'organisateur. Mais l'organisateur n'avait qu'une seule idée, pressé par le temps, c'était qu'on inaugure cette nouvelle saison du bazar de la charité. Donc personne n'a tenu compte, effectivement,
des doléances. Alors, le bazar de la charité dure plusieurs jours, et le 4 mai 1897, on fait bénir le bâtiment, évidemment, démarre l'inauguration officielle qui permet à près de 1200 personnes d'entrer dans ce qui va s'avérer être un véritable piège. Dominique Elloudi-Nénis est l'invité de Ça vaut le détour. Ce soir, c'est cette colmarienne qui a réalisé le documentaire du Bazar de la Charité sur la chaîne Histoire dimanche soir, et vous en saurez plus ce soir dans Ça vaut le détour. A tout de suite.
France Bleu Alsace.
Cutnall et Simply Red pour le retour aux affaires, comme on dit, on choisit France Bleu. Thinking of You est le premier extrait d'un album qui, à mon avis, va casser la baraque et d'une tournée qui va, à mon avis, agiter la moitié de l'Europe. Pour en découvrir les dates, rendez-vous dès maintenant sur le site Simply Red.
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
C'est un regard sur un événement de l'histoire que nous jetons ce soir. Le 4 mai 1897 s'ouvre à Paris la plus fréquentée des ventes de charité qui, pour sa 12e année, donne rendez-vous dans un endroit construit de toutes pièces, un hangar en bois de 80 mètres de long sur 13 mètres de large. Le bazar de la charité attire en fait le tout Paris. Alors on s'y précipite autant pour faire des emplettes au profit des nécessiteux, mais on vient aussi là croiser et dévisager les people, le gotha mondain, la haute aristocratie qui vient un petit peu s'exhiber et montrer ses toilettes. Mais personne ne se doute que ce hangar géant en bois va se transformer en piège mortel. C'est cette tragique histoire de l'incendie du bazar de la charité que vous racontez dans votre documentaire diffusé dimanche soir sur la chaîne Histoire, Dominique Elloudi. Et tragique parce que ce jour-là, le bâtiment est archibondé, je crois.
1200 personnes sont là. Il y a deux événements majeurs pour le tout Paris, pour cette inauguration. Un, il va être inauguré par la duchesse d'Alençon, qui est la petite sœur de Sissi. Donc là, tout le monde connaît. Et puis, le deuxième événement, c'est que il y a un cinématographe.
Ah
effectivement,
oui.
À la fin, du baraquement en bois, on a dédié une pièce, au cinématographe, une toute petite pièce. Il y a 20 personnes qui peuvent y rentrer. Et on diffuse les premiers films des frères Lumière.
On a parlé des décorateurs qui se plaignaient des conditions un peu précaires du montage de ce bâtiment éphémère. Le projectionniste dit, mais alors moi je suis dans une pièce qui n'est pas terrible parce que l'éclat de la lumière du projecteur risque de gêner le spectateur, donc il me faudrait un rideau. Donc il lui installe une espèce de paravent en toile goudronnée. Et il faut dire que le projecteur, à cette époque-là, fonctionne, rien que l'entendre, ça fait peur, à la vapeur d'éther et à l'oxygène, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et à un moment donné, un des deux projectionnistes manque de lumière et demande à l'autre, en fait, de l'éclairer. Et celui-ci va commettre l'acte fatal, puisqu'il va craquer une allumette. Et à partir de là, en 10 minutes, il ne restera plus rien.
L'incendie se propage à une vitesse dingue, mais c'est lié à la nature même des matériaux et de la décoration.
Oui, il y avait un toit, en fait, qui représentait un ciel qui était goudronné. En fait, c'était un vélum goudronné. Donc, quand le feu a pris au niveau du cinématographe, on s'en sort plutôt bien parce que les deux projectionnistes ont tout de suite compris. Ils font évacuer par une cour qui se trouve à l'arrière les 20 personnes qui regardaient un film.
Ouais.
Voilà. Mais les flammes vont monter et le vélum, donc, qui couvrait ces 1000 mètres carrés de lieux de vente vont s'enflammer en quelques secondes et toutes les gouttelettes, en fait, de feu vont tomber évidemment sur le public qui est là et principalement sur les femmes qui avaient des chapeaux, qui avaient des robes comme à l'époque, donc volumineuses.
Alors il faut expliquer que il n'existe dans ce long bâtiment que deux issues, une à l'entrée, des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur, et une à l'opposé qui donne sur une cour fermée, si j'ai bien compris.
Voilà, donc au niveau de la cour fermée, ça va être terrible, mais il y a des gens qui travaillent de l'autre côté de la cour qui vont commencer à s'organiser pour sauver les gens qui sont dans la cour et qui s'amassent les unes sur les autres. Au niveau de la porte principale, comme vous le dites, les portes s'ouvraient vers l'intérieur et en plus de ça, il y avait trois marches. Donc impossible de sortir et les femmes qui réussissaient à sortir tomber sur ces marches et tomber les unes sur les autres.
En 10 minutes, tout est détruit. On dénombre, plus d'une centaine de victimes, mais on ne sait pas très bien. Alors, qui sont ces victimes ?
Essentiellement des femmes. D'abord, il faut reconnaître qu'elles étaient plus nombreuses que les hommes. Mais surtout, les hommes ne se sont pas comportés de façon très chevaleresque. Les hommes de la haute société qui se trouvaient dans le bazar de la charité, on les a appelés bien plus tard les chevaliers de la frousse ou les chevaliers de la pétoche, car avec leur canne, ils tapaient parfois sur les femmes pour se frayer un passage.
C'est épouvantable.
Voilà, donc ouais, donc l'aristocratie n'a pas été très chevaleresque comme elle aurait dû l'être.
À la fin de cette journée du 4 mai 1897, sur l'emplacement de cette rue Goujon où se dressait ce long bâtiment, ne subsiste qu'un tas de cendres et de cadavres fumants. Mais c'est là que démarre la vraie histoire du bazar de la Charité. Quelle est-elle? Vous le saurez alors en restant avec nous, avec Dominique Elloudi-Denis qui a réalisé le documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur la chaîne Histoire et qui est un bon préambule à la saga romanesque de TF1 qui, elle, démarre lundi prochain dès 20h55. A tout de suite, Dominique.
Ça vaut le détour. Thierry Calot.
12 ans déjà. Et oui, l'événement en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la 12e édition des Camping-Car Folies, avec les plus grandes marques européennes, ainsi qu'une large sélection d'occasions récentes. Animation, restauration, parking assuré. 12 ans déjà, Camping-Car Folies, du jeudi 21 au lundi 25 novembre inclus. 10h-19h, Parc des Expositions, Besançon Micropolis. Entrée gratuite.
Vous dirigez une jeune entreprise, une start-up. Vous souhaitez développer votre activité?
Comment financer votre croissance? Comment construire votre réseau?
Trouvez toutes les réponses à vos questions au salon Créer, reprendre et développer sa boîte en Alsace, mardi 19 novembre de 9h à 18h au Palais des Congrès de Strasbourg.
Salon Créer, reprendre et développer sa boîte en Alsace. Un événement organisé par la région Grand Est, l'Eurométropole de Strasbourg, la Chambre de Métiers d'Alsace et la CCI Alsace-Eurométropole.
Inscription gratuite sur créersaboîteenalsace.fr.
Savez-vous qu'un chauffage au bois trop ancien ou mal utilisé, en plus d'accroître votre consommation de bois, est une source de pollution de l'air importante? L'ADEME et l'Eurométropole de Strasbourg vous proposent aujourd'hui une aide de 600 à 1600 euros pour changer votre chauffage au bois. Alors n'attendez plus! Plus d'informations sur chauffageaubois.strasbourg.eu.
Oui, c'est moi, le Grincheux. Et je vais voler Noël au parc de Vesserlin.
Découvrez la magie de Noël au jardin. Des promenades comptées dans les jardins illuminés. 19 soirées en décembre. Réservation obligatoire sur parc-vesserlin.fr.
France Bleu Alsace.
3, 4. Ah ben ça fredonne et ça gigote même. Quelle énergie pour un jeudi soir.
France Bleu Alsace. Info, trafic et mobilité en temps réel.
On aimerait que ça gigote un peu plus vite d'ailleurs sur les routes d'Alsace, notamment autour de Strasbourg où c'est vraiment très compliqué ce soir. Jalal nous attend au Sirac. Jalal, un adjectif au hasard pour définir la situation.
Catastrophique.
Bien, bah dis donc, c'est... Ah oui, ça rigole. Mais c'est pire que tout à l'heure, franchement.
Oui, pour certains axes routiers, effectivement, c'est pire que tout à l'heure. Sur l'autoroute, toujours des complications. Donc sur la 35 en sens comme à Strasbourg, la circulation se fera en accordéon depuis secteur Bayerzé, cela jusqu'à Rachette, avec par moments de forts ralentissements où limite les usagers sont à l'arrêt. Mmh. Et dans l'autre sens, c'est pas mieux. On a la même configuration et cette fois-ci, ce sera de Reichstätt et cela jusqu'au secteur Vigie. Et là aussi, c'est très, très, très compliqué ce soir.
Eh bien.
Le réseau urbain.
Ah.
Non, on n'en est pas en reste. Il n'en reste pas. Bah,
oui, oui, il y a du monde, quoi.
L'avenue des Vosges complètement saturée en direction des autoroutes. La route de Schirmeck. En direction de Lingolsheim, une circulation très 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 dense. Sortie du tunnel de l'Étoile dans le sens Allemagne-France, une circulation très compliquée. Je ne sais même pas par où continuer, tellement c'est compliqué.
Non mais c'est vrai que c'était sur les écrans, pareil, moi devant moi je vois ça, on dirait une araignée qui s'est posée paf sur Strasbourg, avec les toiles qui partent dans tous les sens. Ouais, c'est terrible.
C'est terrible. Bagherzé est toujours aussi compliqué depuis la RD468 à récupérer le secteur autoroutier. Secteur Wacken, idem, en direction de la RN2350. Là aussi, c'est très compliqué de quitter le secteur Wacken ou le secteur Schiltigheim, malheureusement. Mais bon, après, voilà, effectivement, je me répète, c'est une bonne nouvelle, mais pas tant que ça, parce qu'au final, les usagers sont bloqués, donc les parkings sont possibles.
Oui, mais c'est notre seul moyen d'égayer un peu les bulletins info trafic quand ils sont calamiteux, comme là, ce soir. Alors, c'est notre seule joie, ouais. Hein, j'allais le dire. Oui, il y a un truc qui est pas mal, il y a des parfums. Voilà. Bon, on peut pas y aller.
Voilà.
Ah, oui. Ah, ça a répondu derrière aussi, il y avait de l'écho. Bon, on revient vous voir un peu plus tard, plus tard aussi. Ouais. Il y a du monde également au nord de l'Alsace. Si vous traversez Haguenau, c'est un peu serré. Si vous arrivez de Schweig ou sur Meudère, c'est un peu compliqué. On a du monde également quand vous quittez la 4, en direction de Brumath. Oui, même pour entrer dans Brumath, c'est un peu compliqué. On a du monde également entre Bischwiller et Oberhofen. Enfin, un petit tronçon qui est bloqué. Alors, vous le savez, on a régulièrement ce ralentissement à l'entrée de la Nationale 59 en Centre-Alsace quand on quitte Célesta ou la 35 pour aller vers Châtenois. Mais ce soir, c'est un petit peu plus sévère que d'habitude. Plus sévère également les ralentissements dans l'entrée de Colmar par la route de Rouffach ou jusqu'à la gare. Ça n'est que... pare-choc contre pare-choc que vous progresserez. Si vous tournez d'ailleurs pour aller ensuite vers la rue de la Seine, avenue, alors boulevard Poincaré, avenue Clémenceau, rue de la Seine, tout est saturé complètement. On a toujours du monde dans la traversée de Colmar. Si vous quittez la rue Stanislas pour aller vers la route d'Ingersheim, on a du monde. Si vous restez sur la rue Stanislas pour aller tout droit vers l'avenue de la Première Armée et ensuite remonter vers la route de Strasbourg, vous aurez également plusieurs ralentissements. On a toujours des difficultés sur la Nationale 66, entre Vieux-Tannes et presque Bischwiller-les-Tannes. Maintenant, autour de Mulhouse, alors renoncez définitivement à prendre la sortie des Coteaux si vous êtes sur la 36 en arrivant de Belfort, parce qu'elle est complètement saturée. Alors même dans les deux sens, si vous voulez repartir du Parc des Collines pour repartir ensuite sur la 36, vous allez perdre beaucoup beaucoup de temps. Tout comme pour circuler autour de Brunstad, de Riedisheim, de Sausheim ou de l'île Napoléon. Enfin pour vous qui êtes au sud d'Alsace, la circulation n'est pas vraiment détériorée, sauf si vous arrivez de Bâle et que vous engagez sur la 35, où les premiers kilomètres sont très ralentis jusqu'à la sortie Blotzheim, quand vous passez devant l'Euro Airport. Si vous avez d'autres infos de trafic à apporter, 03 88 25 02 02. Bus et tramway de la compagnie des transports strasbourgeois circulent-ils, partons normalement? C'est Camille, voilà, chercher. Camille qui nous attend à la CTS. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Il y a du retard, je crois, sur les bus.
Oui, tout à fait. En raison des mauvaises circulations, hein, on a du coup la ligne L6, la 40, la 50, la 63 et la 72 qui est retardée de 6 à 7 minutes. Voilà, pour le moment. Et pour rappel, demain soir, nous avons de nouveau des travaux sur nos lignes de tram B et F à partir de 21h. Donc du coup, la ligne F ne circule plus après 21h et la ligne B est interrompue entre les stations Elzo et Homme de Fer. Et du coup, il y a des bus de remplacement qui effectuent le trajet Martha Schongauer jusqu'à République. Et du coup, vous pouvez retrouver toutes nos infos sur notre site internet et sur notre compte Twitter, CTS Info Trafic.
Merci beaucoup Camille, bonne fin de soirée à la CTS à Strasbourg. Dans quelques instants, retour à notre voyage dans l'histoire et la tragédie du bazar de la charité à Paris. France Bleu.
France Bleu Alsace Matin, spécial Gilets jaunes demain, un an après. Où en est le mouvement en Alsace? Que sont devenus les Gilets jaunes de la première heure? Dès 6h, reportage, analyse et vos réactions au 03 88 25 15 15. Quel bilan pour ce mouvement? Est-ce qu'il a changé quelque chose en France? Vous avez la parole dans France Bleu Alsace Matin.
Vous cherchez un emploi? Souhaitez vous engager dans une reconversion professionnelle? Le Conseil départemental du Bas-Rhin organise mardi 26 novembre une matinée de recrutement pour devenir aide-soignant. Les EHPAD ont besoin de vous. Inscrivez-vous sur bas-rhin.fr et participez au jeu interactif. Le Conseil départemental assurera la formation des personnes ne disposant pas des diplômes requis. EHPAD-toi et candidate sur bas-rhin.fr. Le 26 novembre, à l'hôtel du département, place du Quartier Blanc, à Strasbourg.
Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Mais ça coûte cher. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy.
86% des dépenses d'Action contre la faim sont investies dans des missions partout dans le monde. Léguées à Action contre la faim, vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur le leg au 01 70 84 84 84.
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
Organisé sur un terrain vague en plein Paris, le 4 mai 1897, le long bâtiment fait de bois et de décors de théâtre qui devait abriter le bazar de la charité brûle en un instant ou presque après des flammes provoquées par le projecteur de cinématographe qui était une des attractions. 1200 personnes sont dans le bâtiment, près de 130 vont décéder. Mais derrière ce tragique incendie se cache également une vraie révolution sociétale qui est racontée dans le documentaire que vous découvrirez dimanche soir sur la chaîne Histoire et réalisé par une colmarienne, Dominique Elloudi-Lénis. Cet événement a un succès populaire énorme car c'est un petit peu le début de la presse qu'on appellerait people à ce moment-là aussi.
C'est l'époque, effectivement, où la presse tire à des millions d'exemplaires. Et la presse va s'emparer tout de suite de ce fait divers parce qu'il y a là tous les ingrédients, en fait, pour intéresser les lecteurs. C'est-à-dire, c'est la haute bourgeoisie, oui. C'est des morts, c'est des femmes qui brûlent, c'est des corps qu'on ne reconnaît pas. Et puis, si les hommes de l'aristocratie se sont mal comportés, les hommes, on va dire, du peuple, comme les cochers, les pompiers...
ceux qui ont été héroïques dans cette
histoire. Des écuyers, c'est eux qui vont rentrer dans les flammes pour essayer de sauver un maximum de personnes.
Les magazines de l'époque, les gazettes de l'époque tirent des éditions spéciales, à grand renfort de détails sordides. Le public se passionne déjà pour l'horreur de cette tragédie, mais aussi pour tout ce qu'on, entre les lignes, on fait comprendre que les hommes de l'aristocratie ont été des profonds salauds, qu'ils ont tapé avec leur canne les femmes, parfois les leurs, pour se frayer un chemin et sortir avant de ce piège à flammes. Et on découvre surtout des détails troublants, comme par exemple une voyante qui, quelques semaines avant, Dominique Elloudi-Lénis, prédisait un truc qui était étrange à Paris.
Ah oui, il y a une voyante très très connue dans les salons parisiens qui, quelques jours avant l'incendie, effectivement, avait dit dans ses salons parisiens, c'était très à la mode à l'époque, l'occultisme. Oui. Donc elle disait, je vois des corps brûlés par milliers. Des personnes qui étaient dans ce salon ont fait effectivement le lien avec cette prédiction et la presse, évidemment, s'est emparé de ce détail. Pour la haute société, c'est quelque chose de terrible, parce qu'en fait, dans toutes les familles aristocratiques, dans toutes ces familles-là, il y avait des morts. Oui. Il y avait toute l'aristocratie française est en deuil. Les maisons de couture vont être submergées de commandes et tous les jours, pendant une quinzaine de jours, il y aura des messes partout, dans tout Paris.
Certains demandent pourquoi Dieu a laissé cet incendie se faire alors que c'était pour venir en aide aux plus démunis.
Les questions commencent à se poser car il va y avoir une messe à Notre-Dame pour toutes les victimes. Et à cette messe, il y a le révérend père Olivier qui va dire que c'est de la faute de la République, c'est de la faute des scientistes. Le cinéma, c'est donc une avancée de la science promue par les républicains, et que c'est donc à cause du cinéma et que ces flammes, en fait, sont la vengeance de Dieu.
Alors, c'est le début d'une révolution. Ça va permettre à la science de faire un bond assez spectaculaire. Lequel ? Réponse avec Dominique Elloudy-Lénis, réalisatrice du documentaire Le Bazar de la Charité, à voir ce dimanche soir sur la chaîne Histoire.
France Bleu Alsace.
On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases, je te dirai que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are from the north. We came from the south. We are the nation. We are from the north. We came from the south. We are the nation. Yes, we are. Yes, we are. On a la rage au cœur, nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. We are from the north. Tu le sens, le bonheur qui se dessine à l'horizon. Est-ce que tu la sens, la chaleur? La nation devient ta maison. Tout se donne. Embrasser le monde entier. We are from the north. We came from the south. We are.
Nation avec Tibbs, qui a complètement disparu des radars d'ailleurs, le pauvre. Il est 17h44.
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
Avec notre invité ce soir, nous revenons sur un fait divers terrible qui a bouleversé l'opinion publique. Le bazar de la Charité prend feu en 10 minutes, tout est détruit, faisant plus d'une centaine de victimes le 4 mai 1897. Alors, ce fait divers tragique va inspirer une série événements que vous verrez dès lundi soir sur TF1. Dans cette série événement en 8 épisodes, vous découvrirez le sort de 3 femmes après ce tragique incendie. Car ce tragique incendie va sans doute permettre de remettre à plat l'ordre établi et de changer la condition des femmes. Parce que des femmes, il y en a beaucoup dans cette vente de charité. Et notamment l'une d'elles, Dominique Elloudy-Lénis, vous avez réalisé un documentaire, La tragique histoire du bazar, de l'incendie du bazar de la charité, qui dimanche soir sur la chaîne Histoire reviendra en détail sur les conséquences inattendues. Parmi celles qu'on va découvrir, la découverte de corps de femmes et d'une en particulier, la duchesse d'Alençon, sœur de Sissi, impératrice d'Autriche. Mais qui est vraiment la duchesse d'Alençon, Dominique?
Ah là, il faudrait des heures et des heures pour vous raconter.
C'est une personnalité étrange.
C'est une personnalité absolument incroyable. Pour faire court, c'est la petite sœur de Sissi. Hein.
Voilà. Impératrice.
La petite sœur de Sissi, elle est mariée, voilà, avec le duc d'Alençon. Elle a eu une vie un petit peu dissolue, oui. Des amants.
Oui, c'est un peu le vilain petit canard de la famille, quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Si on lit ce qu'elle a dit avant la tragédie, on est un peu perturbé, quand même.
Avant la tragédie, effectivement, elle a dit « Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je souhaite que mes cheveux soient brûlés. »
Ça va faire jaser parce que, d'abord, il faut la retrouver, cette duchesse d'Alençon, et comme je le disais, et les gazettes de l'époque s'en sont délectées, les corps sont dans des états épouvantables, et comment les reconnaître? Et c'est là que la science, une nouvelle fois, va faire son entrée en piste.
Alors, c'est très très compliqué de reconnaître des corps calcinés. On essaye de les reconnaître grâce à quelques détails.
Des bijoux, des choses comme ça.
Des bijoux, ouais. Généralement des bijoux, peut-être un peu de vêtements qui n'ont pas brûlé. Voilà, et c'est très important ce que je vous dis pour ceux qui vont regarder la série. Donc on essaye de reconnaître ces corps grâce aux bijoux. La duchesse d'Alençon... On a trouvé, au départ, on a trouvé un corps, on pensait que c'était le sien, mais justement ce corps avait un bijou qui n'était pas le sien, donc ce n'était pas la duchesse d'Alençon. Impossible de reconnaître le corps de la duchesse d'Alençon. On sait qu'elle était dans l'incendie, puisque son mari qui était à l'extérieur a voulu rentrer en fait pour la sauver, et elle tout d'un coup... Elle
retournait dans les flammes.
Elle fait demi-tour, elle retourne dans les flammes, elle dit « ce n'est pas possible, je ne peux pas, moi, duchesse d'Alençon, laisser d'autres femmes, y compris des religieuses. »
Oui, elle dit « je sortirai la dernière, oui, laissez-moi
y aller. » Je sortirai la dernière. » Et elle est morte, effectivement. Elle a pris dans les bras une de ses servantes, afin qu'elle meure étouffée
et
non pas brûlée par les flammes. Donc c'est vraiment l'héroïne absolue de cette histoire.
Mais comment faut-il la reconnaître? Et alors là, il y a je ne sais pas qui, ce sont les enquêteurs, la famille, qui a une idée géniale, qui demande à qui de venir faire une identification?
Eh bien, à son dentiste, car la duchesse d'Alençon avait donc les moyens d'avoir un dentiste, voilà. Et le médecin de la famille dit « Moi, je ne peux pas reconnaître le corps, mais demandons donc à son dentiste. » Et c'est son dentiste qui va venir reconnaître, effectivement, grâce à la dentition donc, de ce cadavre, et identifier, en fait, le corps, officiellement, voilà, de la duchesse d'Alençon. Et c'est la première fois dans l'histoire que, voilà, on a... l'orthodontie médico-légale, voilà, pour la première fois dans l'histoire, permettre une identification d'une personne.
Alors, vous avez eu la chance de pouvoir demander à Audrey Fleurot, qui dans la saga Le Bazar de la Charité sur TF1, à partir de lundi prochain et pendant 8 épisodes, joue le rôle d'une des femmes qui s'échappe de ce bazar de la charité, qui est sauvée, et c'est elle qui raconte dans votre documentaire la vraie histoire du bazar.
Absolument, j'ai demandé à Audrey Fleurot si elle voulait bien prêter sa voix pour que ça fasse écho aussi à la série. Ça l'a beaucoup touchée, d'abord parce que c'est la véritable histoire,
mais oui.
Et puis parce que dans ce film, je fais la part belle aux conditions des femmes de l'époque, et comme moi, c'est un sujet qui la préoccupe beaucoup.
Alors précisément, dans la saga, Audrey Fleurot joue Adrienne de Lanvierpré. C'est le destin croisé de trois femmes, dont... Et il paraît que ça a pu arriver pour du vrai. Certaines ont profité du trouble provoqué par cette situation pour s'échapper et refaire leur vie en profitant du fait que certains cadavres n'ont jamais été identifiés. C'est vrai, ça?
En tout cas, si elles étaient traitées de la façon dont Gilbert Melki, dans la série, traite Audrey Fleurot, je comprends effectivement qu'elles aient eu envie de s'échapper et qu'elles aient profité des flammes de l'enfer pour vivre une autre vie.
Se laisser passer pour morte plutôt que de retourner dans leur prison, leur palais doré. L'histoire du bazar de la charité est racontée par notre invité, Dominique Elodie Lénis. C'est dimanche soir sur la chaîne Histoire, à quelle heure?
À 20h40.
Merci beaucoup Dominique Elodie Lénis d'avoir été
notre
invité.
Merci beaucoup et à très bientôt.
À très vite sur France Bleu
Alsace. Au revoir.
Ça vaut le détour. Thierry Calot.
Ci vuole un attimo per dirsi.
Pour les oreilles. À déguster avec modération, surtout aujourd'hui. Pourquoi ? Réponse avec notre ami spécialiste de l'ouverture du courrier.
Ça vaut le détour jusqu'à 19h.
Bien le bonsoir, Jean-Philippe Pierre.
Bonsoir Thierry, de Monsieur Pilier de Bar. J'ai vu que plus de 200 millions d'euros d'actions de la Française des Jeux ont été vendus rien que le premier jour dans le cadre de sa privatisation. Vous croyez que c'est un bon coup d'en prendre ? Je sais pas, j'y connais rien en bourse. Tout ce que je crois savoir, c'est que le grand gagnant à ce petit jeu-là, c'est la Française des Jeux, plus que ceux qui jouent toutes les semaines au loto. Monsieur Niffet à Niffer me demande à quoi sert une journée mondiale du diabète comme celle qui a lieu aujourd'hui. Eh bien, vous mettez le doigt dessus, monsieur, et allez vous le laver car ça colle. Une journée mondiale du diabète prouve que cela ne sert à rien. En effet, il faut savoir comment naissent ces journées, toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Ah, d'abord, on se réunit pour trouver des idées et des noms dans des lieux tout aussi invraisemblables. Mais pour que cela reste convivial, on le fait autour d'un café courne. Et là, c'est toujours pareil. Vous reprendrez bien une pâtisserie, madame, le membre des journées spéciales nationales, internationales et mondiales ? Oh non, monsieur le membre de la commission des journées spéciales nationales, internationales et mondiales. J'en suis déjà à ma deuxième. Non, madame le membre de la commission des journées spéciales nationales, internationales et mondiales. Oui, c'est toujours très long ces réunions. Votre quatrième, mais c'est pas grave, reprenez-en. Et deux ou quatre sucres dans votre café ? Voilà. Et après, on se demande pourquoi les gens sont malades de diabète. D'ailleurs, aujourd'hui, 14 novembre, c'est aussi la journée mondiale de l'utilisabilité. Ça, on se demande bien où ils sont allés la chercher. Oui, rien que utilisabilité est un mot inutilisable puisqu'il n'existe pas dans le dictionnaire.
Eh oui.
C'est QFD.
Alors, si vous voulez réécouter les courriers des auditeurs inventés par Jean-Philippe Pierre, c'est dès maintenant sur francebleu.fr. Et Jean-Philippe Pierre, si vous voulez être prêt pour demain, il y a un sac postal qui vient d'arriver à la